Bonsoir. Vous écoutez D'assonances et dissonances, une émission réalisée par Béatrice Maché, émission consacrée à la poésie contemporaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie du poète poitevin Pierre Rosin, poète mais aussi peintre. Alors Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de me recevoir chez vous, ici à Poitiers. Et je suis ravie de vous accueillir dans cette émission, puisque nous nous sommes rencontrés à 7 et que depuis 7, je me dis, mais cet homme a peut-être des choses à dire. Pour vous présenter, je dirais que vous avez été président de la Maison de Poésie de Poitiers, que vous avez commencé par le dessin, puis la peinture, et vous êtes venu à l'écriture ensuite. Vous avez à votre actif des poèmes publiés dans de nombreuses revues, et puis des livres aussi, dont je vais citer quelques titres. Je dessine. Poésie-peinture, aux éditions Gros Texte, édité en 2023. Les grands chemins, toujours chez Gros Texte, publié en 2020. Poédie aussi, un recueil paru aux éditions du Petit Véhicule, en 2020. Et enfin, Lambeau d'humanité, écrit et dessiné par Ghislaine Lejar et Pierre Rosin aux éditions Zinzinul. Et Ghislaine Lejar, si vous vous en souvenez, chers auditeurs, vous l'avez entendu aussi sur les ondes de Radio Agora. J'ai oublié aussi de vous dire que le premier, tout premier recueil publié aux éditions à l'index a pour titre « Un reste de beau pour le reste du jour » suivi de « Je et migration » avec évidemment des dessins de l'auteur. Pierre Rosin, vous avez également illustré, accompagné des auteurs de vos dessins. Vos dessins accompagnent aussi d'autres auteurs dans certains magazines ou sur les sites de poésie. Donc trois titres. Puzzle, ou puzzle, comme vous voudrez. Poème de Catherine Baptiste, publié aux éditions à l'index. Sacré, des poèmes de Jean-Claude Touzeil, aux éditions de La Lune Bleue. Et puis, Les gens polis ne font pas la guerre à autrui, des poèmes de Jacques Thomassin chez Soc et Fioc. Alors du coup, la première question est celle qui paraît la plus facile à poser. Pourquoi dessin et écriture? Est-ce que la première pratique du dessin, donc, se complète avec la deuxième, qui implique une oralité? Est-ce que l'écriture vient comme une évidence de maturité après l'immédiateté silencieuse de l'activité picturale?
Alors, tout d'abord, ce fut le dessin. Donc, moi, je dessine depuis que je suis enfant, et je suis venu à l'écriture beaucoup plus tard, c'est-à-dire pratiquement 50 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
De la lecture, peut-être?
Oui, de la lecture. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup lu. Par contre, je suis quelqu'un qui parle peu, qui s'exprime peu, qui ne va pas raconter sa vie. Et ensuite, je dirais, je suis pas littéraire. C'est-à-dire que j'ai fait mes études, des études techniques, que j'ai exercé un métier technique. Et donc la littérature, si elle m'a accompagné, je n'ai jamais été acteur de littérature. Et je n'ai jamais fréquenté des milieux littéraires. Donc c'est venu bien après. Ce qui m'a accompagné en termes littéraires, bon, c'est la lecture évidemment, mais ça a été beaucoup aussi les chansons. Et on a vécu, je pense, une époque absolument formidable où on a eu des chanteurs, auteurs, des interprètes de poésie qui a été formidable. Je pense à Léo Ferré, je pense à enfin beaucoup d'autres, Yves Montand, Ferrat. Voilà, donc cette période-là était très riche et m'a accompagné pratiquement toute ma vie jusqu'au moment où finalement j'ai rencontré des poètes.
Alors pour approfondir encore cette question, parce que pour moi, la poésie n'est pas... On la classe parmi la littérature, mais ça déborde très largement, je crois, le cadre de la littérature. Bien sûr, on utilise des mots, bien sûr... On écrit, néanmoins c'est quand même une activité de création. Si on ne voit la poésie que comme une forme de littérature, je pense qu'on l'ampute de beaucoup. Parenthèse refermée.
Je tiens à préciser, c'est vrai, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai parlé de chansons. Je pense qu'il y a une proximité forte entre la poésie, l'immédiateté et la musique.
Son rythme, qu'est-ce qu'un poème?
Qu'est-ce qu'un poème? Ah mon Dieu! Je pense que de ce point de vue-là, la poésie ressemble à la peinture. C'est quelque chose qu'on reçoit de façon immédiate.
Oui, donc voilà, on fait appel au sens. Et puisqu'on fait appel au sens et aux sensations, il y a le geste d'écrire dans la main, il y a quelque chose aussi dans un geste et un élan. Et dans le dessin, c'est aussi un geste et peut-être même un élan. Est-ce que le geste de dessiner se poursuit par le geste d'écrire dans la main, je veux dire? Est-ce qu'il y a un prolongement, une continuité?
Non, je crois pas. Je crois que ce sont des choses qui se font parallèlement. Alors, ce n'est pas la continuité d'un geste, c'est pratiquement le même geste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose sort de soi. Alors, ça peut être un dessin, comme ça peut être une phrase ou un début de poème. Et ensuite, il y a une construction qui se fait autour. En tout cas, dans ma façon d'appréhender le dessin, qui est une ligne, j'allais dire pure, ça se rapproche beaucoup d'une écriture et vient en complément la couleur, comme la musique vient en complément de la poésie.
Puis alors tout à l'heure, je parlais de rythme, mais si on part donc de dessin d'un trait, comme vous dites, pur, il y a quand même un rythme, il y a quand même une vitesse, il y a une cadence peut-être aussi. Donc est-ce qu'on retrouve dans le dessin une forme de mouvement qui insuffle et un rythme?
Oui, dans le dessin, il y a un mouvement, il y a un souffle aussi dans le dessin. Et en tout cas, en particulier dans le dessin tel que je le pratique, qui a beaucoup de déformations des personnages, il y a des formes d'accélération de traits ou voilà, qui emportent. Et un peu, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une parole, à des phrases.
Oui, moi je vois parfois des arabesques.
Des arabesques, tout à fait, oui.
Alors par contre, comment ça se passe au niveau de l'œil entre le dessin et l'écriture? Vous dites écrire ou dessiner pour la main, c'est le même geste ou pratiquement, mais pour l'œil.
Qu'est-ce que l'œil par rapport à l'écriture? Parce que c'est vrai qu'en poésie, on voit est-ce que j'écris, est-ce que j'écris pas? Oui, non, c'est vrai que j'écris sur un ordinateur, donc on a un peu oublié le geste d'écrire, mais il est extrêmement présent. Alors moi, j'ai pas une très très belle écriture, mais je me souviens et j'ai utilisé aussi dans mes dessins des écritures qui me semblaient un peu hors du commun. Avec, c'est vrai qu'on a des arabesques, qu'on a dans mon dessin, on a des enchevêtrements de lignes. Voilà, et qui raconte certainement quelque chose. Parfois, c'est un petit peu mystérieux.
Alors, pour que on soit dans le vif du sujet, je vais vous demander, Pierre Rosin, de lire quelques poèmes que vous prenez dans les recueils que vous voulez.
Alors, ce sont deux poèmes qui font partie d'un recueil qui n'est pas publié, qui s'appelle Paysages dissonants. Le premier. Il aurait fallu que tu leur ressembles, que tu sois différent, que ta vie soit plus belle que la leur, que tu penses comme eux, que tu sois un autre. Il fallait faire vite, ne pas se laisser prendre par l'engrenage immuable des choses, ne pas se poser de questions, aller de l'avant quels que soient les détours, les contorsions, égaré, dissemblable, sans savoir vraiment qui tu es, ni ce que tu voulais être et pourquoi, tu tournes en rond, comme un fauve dans sa cage, les barreaux se tordent, la mémoire crisse. Alors ces deux poèmes accompagnent des dessins. Bon, c'est un peu difficile de les montrer là, mais enfin bon. La nuit, je ne dors pas, j'entortille mes pensées comme des herbes malignes. Dans la poitrine, un morceau de bois, dans mon cerveau, une obsession tourne et louvoie, creuse, jusqu'à mettre à nu le mur blafard où viennent s'inscrire, en arabesque silencieuse, mes logorées insomniaques. Je recueille goutte à goutte la lumière qui perle de la moindre émotion, l'ombre ténue d'un soupir, une phrase griffonnée sur une page, les couleurs qui embrasent le mur, l'écoulement cristallin d'un chant, la grâce d'un corps qui danse, sans relâche, jusqu'au souffle ultime, et lorsque la nuit viendra, je voudrais m'éteindre aussi.
Merci Pierre. Donc un premier poème, un poème qui s'adresse à un « tu », qui pourrait être un « je », j'imagine. C'est un peu comme si vous parliez votre double. Et les deux derniers, donc qui osent le « je » et qui sont comme une confession. Ces poèmes, c'est comme un petit peu des exercices de auto-réflexivité, auto-exploration.
Oui, c'est une de mes entrées en écriture, c'est-à-dire finalement de parler de moi et de livrer sans doute des choses que je ne dirais pas dans la vie courante.
Oui, mais quand on parle de soi, on sait très bien qu'en face, il y a des semblables et qu'on n'est pas les seuls à ressentir ou réfléchir et tirer les mêmes conclusions néanmoins.
Oui, c'est un jeu, c'est-à-dire, certainement on triche un peu par rapport à ça.
Ah, oh, on s'élargit, pas forcément tricher. On s'élargit jusqu'aux autres.
On s'élargit jusqu'aux autres, mais à partir du moment où on raconte, on joue quelque chose. On est un petit peu aussi, et ça fait partie de la poésie, on est aussi en spectacle.
Dans les titres que j'ai, les titres donc de vos ouvrages parus et que j'ai cités, il y a Lambeau d'humanité. Et je voudrais m'attarder un petit peu sur cet ouvrage. Bon, d'abord dire que ce livre, il est très beau. Commis à quatre mains avec Justine Lejard et publié aux éditions Zinzinul. Un très beau petit livre. Et vous y avez mêlé vos dessins, vos mots, des dessins et des mots de Ghislaine. Est-ce que c'est vraiment un ouvrage à quatre mains? Ou bien vos dessins et vos poèmes cohabitent avec ceux de Ghislaine?
J'avais rencontré Ghislaine autour de la petite maison d'édition Soc et Foc. Tous les deux, nous dessinions et nous écrivions. Enfin bon, c'était vraiment pour moi l'écriture le tout début. Nous avons eu envie de travailler ensemble. Et nous nous sommes complétés. Ghislaine présentait ses papiers déchirés, et dessus je mettais mes personnages, et ensuite chacun son tour racontait une histoire, qui sont toutes des histoires d'humanité, on va dire ça comme ça. Des histoires un petit peu difficiles, de difficultés de vie aussi. Alors Lambeau d'humanité, d'une part, parce que c'était le contenu des poèmes, mais c'était aussi, Ghislaine propose des papiers déchirés, donc des lambeaux de papier sur lesquels je mettais mes personnages. Donc il y avait un double de jeu de signification entre l'image et le contenu.
Et alors vous alliez jusqu'à Nantes pour travailler avec Ghislaine, ou bien vous correspondiez, ou bien...
Non, autant que m'en souvienne, on avait dû se rencontrer une fois, mais on avait travaillé par à distance.
Je vais vous citer. Parfois, il faut partir. N'emmener que le nécessaire. Un parfum. Le vert des collines. La douceur du soir. Le souvenir d'un visage. Quelques mots. Un crayon. Des feuilles de papier, pas d'adresse, et la certitude de ne pouvoir faire autrement. Est-ce que ces vers que je viens de lire, qui paraissent comme ça simples, est-ce que donc ces vers résument votre attitude, votre rapport à la vie? Avez-vous ancré en vous cette certitude de suivre exactement ce que vous devez faire et ce que vous devez être, et si oui, Je suppose que la sérénité et la paix vous inondent souvent, Pierre Rosin.
Je crois que c'est vraiment un cas de mauvaise interprétation de ce que j'ai pu écrire. C'est assez amusant. Non, je pense que je raconte l'inverse, au contraire. C'est-à-dire que partir fait partie des choses inscrites un peu dans ma vie, dans mes origines, puisque bon, on le verra peut-être un peu plus tard, je suis d'origine italienne, donc enfant de l'immigration, en Lorraine, que j'ai quitté à un moment donné mon milieu social pour changer de milieu, donc partir ça veut dire laisser des habitudes, laisser des gens aussi derrière soi. Alors tout ça, ça se fait parce que c'est l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas toujours très facile, mais on a guère le choix par rapport à ça. Et ce n'est certainement pas un chemin tout tracé, parce qu'on ne sait pas où on va. Quand on change de milieu, quand on change d'orientation, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement.
Et peut-être étiez-vous quand même encouragé, parce que dans ces milieux humbles, bien souvent, et surtout dans les milieux émigrés comme ça, on veut absolument que les enfants réussissent. Et si on émigre, c'est justement pour offrir la chance à ces enfants-là d'échapper à ce destin d'ouvrier ou, entre guillemets, d'exploité.
Oui, de ce point de vue-là, j'ai été aidé par mes parents. J'ai été aussi aidé par la République, je dirais, parce que à l'époque, quand j'étais petit, il n'y avait rien. Et ça a vraiment été l'école qui nous a accompagnés tout du long.
Alors voilà, l'ascenseur social, comme on dit, un petit peu grippé en ce moment, mais bon, ça avait au moins le mérite d'exister avant. Alors autant que je puisse comprendre vos peintures, il me semble que vous tracez d'abord une ligne qui dessine un contour, souvent une silhouette ou un visage. On revient donc à ce geste de l'écriture. Est-ce que quand vous écrivez, cela tient du même procédé? Vous suivez un fil qui pose un décor à partir duquel le poème se développe.
Le travail de dessin, de simplification du dessin, il s'est fait au fur et à mesure que j'ai dessiné. Il est arrivé, bon, peut-être j'avais 20 ans quand j'ai commencé à dessiner comme cela. C'est un travail de simplification et de clarification. Et ce travail-là, on peut le faire également au niveau de l'écriture, je crois. Et je pense qu'il est, enfin pour moi en tout cas, il est nécessaire.
Avec un micro, on ne peut pas montrer. J'invite les auditeurs donc à se rendre sur Internet, s'ils en sont curieux, et d'aller visiter le site de Pierre Rosin. Je pense que si vous tapez Pierre Rosin, tout simplement sur votre moteur de recherche, vous tomberez sur le site et vous trouverez des textes et des images. Pour que les auditeurs puissent se rendre compte de l'ambiance de vos poèmes, j'aimerais que vous en lisiez quelques-uns, Pierre Rosin, ceux de votre choix, en nous disant dans quel recueil vous les avez extraits.
Alors, un poème un petit peu long qui doit être extrait de Les Grands Chemins, chez Gros Texte. Je connais le nom des étoiles les plus brillantes et celui des figures qu'elles dessinent dans le ciel. Chaque jour, à des années-lumière, on découvre des astres semblables à la Terre. J'écoute la radio et j'imagine au cœur des galaxies une vie grouillante, aux formes que personne ici ne peut concevoir. J'imagine, et des herbes qui poussent dans mon jardin, je ne sais rien. J'étudie la musique et la philosophie pour tenter de comprendre comment s'harmonisent la pensée et la matière. J'ai appris la physique et la littérature, les mathématiques, et pour connaître les mystères de ma vie intérieure, je consulte analyste, prêtre, sage et thérapeute. J'étudie et je médite. Et des herbes qui poussent le long du chemin, je ne sais rien. On apprend ce qu'il faut d'informatique, logiciel, jeu, navigateur, système d'exploitation, antivirus. On apprend et parfois ce n'est plus la peine. La machine nous indique si nous sommes près ou loin. Quelles sont nos affinités secrètes, comment écrire et comment peindre. Je vis comme les gens vivent aujourd'hui, et des herbes qui poussent sous mes pas, je ne sais rien. Je ne distingue pas l'ivraie du plantain, la fétuque et le chien-dent.
Ce livre, donc, Les Grands Chemins, disons-en quelques mots parce que le titre évoque Jean Giono, et Jean Giono, c'est une figure tutélaire un petit peu.
Alors, Jean Giono, j'ai toujours beaucoup lu, mais bon, quand j'étais petit, je dirais, je lisais,
Jules Verne.
Jules Verne, Alexandre Dumas. Et je crois que c'était en quatrième, j'ai reçu un prix pour je ne sais plus quoi, et c'était Regain de Giono. Et Regain, c'était un livre merveilleusement écrit avec un style incomparable. Bon, une aventure aussi. Et du coup, je me suis mis à lire Giono. J'ai lu beaucoup de livres de Giono. Alors, autant Regain, c'était un livre où j'ai peut-être eu du mal à me reconnaître dans les personnages. Autant je me suis reconnu dans Les Grands Chemins. Ce vagabond qui allait à travers la Provence. Il y avait aussi dans cette façon d'écrire des Grands Chemins, une extrême simplicité, en tout cas une apparence d'extrême simplicité, où tout était abordable, simple, écrit avec des mots ordinaires. Enfin, c'était une merveille d'écriture. Je crois que je l'ai lu 4 ou 5 fois, ce livre. C'était vraiment un modèle, et c'est peut-être même devenu un modèle au niveau du dessin.
Merci pour ces commentaires. Donc, on voit ce que Giono peut vous avoir apporté. Pour avoir un petit peu parcouru moi-même votre livre Les Grands Chemins, j'ai l'impression qu'il y a en filigrane comme une sagesse orientale qui voudrait que le but n'est pas d'arriver quelque part, mais que le seul intérêt est de se mettre en marche. Évidemment, en se mettant en marche, on fait des rencontres. Et ces rencontres enrichissent. Alors je vous cite. Je ne sais pas ce que j'ai cru pouvoir trouver, quels étaient mes rêves. À qui et à quelle promesse je m'en étais remis. Au bout, il n'y a rien. Un trajet interminable. Quand on l'entend, quand on le lit, en tout cas moi je me suis posé la question, est-ce que c'est comme un constat d'échec, ou bien est-ce que c'est un éclair de lucidité, ou bien encore une façon de faire son deuil, d'idéaux, de rêves, d'aspiration. Ou alors, c'est presque un tremplin pour la spiritualité, pour l'infini, le tout ouvert.
Je suis assez peu sensible à la spiritualité, mais ouvrir des portes nouvelles, oui, ça m'intéresse. Après, quand on écrit des choses qui sont gaies, d'autres qui le sont moins. Il y a peut-être aussi chez moi, avec l'âge, le sentiment de vieillir. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont passées. On fait des bilans qui valent ce qu'ils valent, quoi. Bon.
Je rappelle à nos auditeurs que vous écoutez D'assonances en dissonance, que je suis en compagnie à Poitiers de Pierre Rosin, poète et peintre. Peintre, on a parlé donc du geste, du mouvement, du dessin. On n'a pas parlé des images numériques. Et ça, j'aimerais bien aussi qu'on parle de cette façon de travailler. Donc Pierre Rosin, vous allez nous expliquer en fait comment vous procédez, qu'est-ce que ça vous apporte cette nouvelle entre guillemets technologie. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous rend plutôt paresseux? Ou au contraire, ça vous permet d'autres choses, d'aller plus vite, d'aller plus loin?
Alors d'abord, moi je suis d'une formation technique, donc je me suis toujours intéressé aux techniques. Ensuite, j'ai commencé à dessiner, et j'ai dessiné avec un crayon de papier sur une feuille, ou stylo sur une feuille. Très vite, j'ai abandonné toute coloration, en tout cas tout gribouillage, pour ne garder que la ligne. En même temps, je faisais toujours des personnages, mais des personnages un petit peu biscornus, on va dire ça comme ça, avec, je sais pas, des bras qui sortent de la tête, enfin des choses peu réalistes. Quand je me suis posé la question de passer à la peinture, j'ai eu besoin d'un modèle. À un moment donné, j'ai eu besoin d'un modèle, c'est-à-dire de savoir avoir des repères. Parce que quand on commence à peindre, c'est parfois difficile de revenir en arrière. En particulier si on fait de l'aquarelle, on fait certaines techniques. Donc j'ai eu besoin de me recréer un espace de couleur. Et le fait de passer par l'ordinateur, ça a pu m'aider à me créer des modèles. Ça m'a aidé à créer des modèles. Et ça m'a aidé aussi à explorer un tas de solutions. C'est-à-dire qu'on peut essayer 15 solutions. Si ça ne va pas, on revient en arrière. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on va au hasard des couleurs et des expérimentations.
Ah, les repentir en peinture, c'est toute une histoire, hein.
Voilà. Alors, parfois, on peut s'en servir. Mais je voulais garder la maîtrise de la création. Et donc, c'est pour ça que je suis passé par cette étape. Je scanne mon dessin. Et ensuite, par couches successives, je peux modifier le dessin et je peux amener petit à petit des éléments de couleur. Ça peut être aussi des éléments d'image que j'ai pris à gauche ou à droite. Voilà, ça me permet tout un travail de création. Et éventuellement, à la fin maintenant, donc je fais un tirage. Et si je m'en sens la capacité et l'envie, je peux en faire une peinture à l'huile.
Ça procède par couches successives que vous plaquez les unes par-dessus les autres?
Oui, que j'agence les unes par rapport aux autres. Voilà, de manière à créer quelque chose. C'est de l'expérimentation jusqu'à ce que cela me convienne. Quitte à changer 15 jours après parce que j'aurais découvert un nouveau poète et j'aurais envie de mettre image qui raconte quelque chose de son poème. Voilà. Alors, c'est le gros avantage du travail sur ordinateur, c'est qu'on peut évoluer, changer en permanence.
Vous n'avez jamais pensé à faire de la bande dessinée, Pierre Rosin ?
Non, parce que c'est une véritable discipline, c'est un véritable travail. Et que c'est vrai que moi, j'aime bien changer à chaque fois de thèmes, de dessins, de décors, enfin de... voilà.
Je comprends. En effet, quand on suit les séries de bandes dessinées, il faut retrouver le même personnage.
La bande dessinée, c'est vraiment du travail, c'est un travail sérieux qu'il faut faire avec application. Et c'est véritablement un métier.
Alors, mon petit doigt m'a dit, Pierre Rosin, que vous avez exposé un ensemble de ces images et poèmes, Jardin doux amer, et j'aimerais que vous lisiez des extraits ou que nous nous pencherons un petit peu peut-être sur les images. Voilà, donc, Jardin doux amer.
Dans le terreau de ma mémoire ne poussent que des clous tordus, rouillés, qu'on garde. Ça peut toujours servir et qui ne servent à rien. Je peux raconter un peu cette image d'une part et le poème. Alors, l'image, c'est un personnage qui a un ensemble de clous rouillés, tordus, qui occupe le sommet de son crâne. Bon, mais c'est pas une image triste, hein. Alors, ces vieux clous rouillés, tordus, c'était les clous que j'avais récupérés chez mon père et que j'avais assemblés, que j'avais recoloré et que j'avais soudé, collé ensemble. Et je m'en suis servi ensuite pour les intégrer à mes images. Donc c'est un hommage à mon père que je rends là.
Donc votre père, lui, né en Italie. Vous, vous êtes né en France.
Oui. Je dois raconter un peu mon père. Alors mon père est né en 1920 dans la région de Venise, ma mère aussi. D'ailleurs, ils sont tous les deux de la même région. En 1947, après la guerre, mon père avait fait partie de l'armée italienne. Ensuite, en 1943, ils avaient été raflés par les Allemands et il avait fait 2 ans de camp de prisonniers en Allemagne. Donc en 45, lorsqu'ils sont rentrés en Italie, lorsqu'il est rentré en Italie, c'était la misère. En 47, il a émigré en France dans les mines en Lorraine. Ma mère est venue en 50 et moi je suis né en 51.
Voilà un raccourci de choses plus ou moins gaies. Rossin, est-ce que c'est Rossini ou bien...
Non, c'est Rosin, Rosing. Alors c'est un nom typiquement vénitien, comme Benetton par exemple.
Un autre peut-être de ces poèmes exposés ?
Dans le jardin de mon père, il y a des carottes, des tomates, des fraises, des haricots, des nourritures colorées et concrètes. Debout à ma fenêtre, je peins par petites touches, dans un coin de lumière discrète, derrière la sauge et le romarin, posé sur un lit de fleurs aux couleurs douces, le portrait d'une femme.
Merci. Et je dois préciser aux auditeurs que de là où je me trouve en face de Pierre Rosin, je vois par la fenêtre tout un tas de fleurs et de couleurs. Donc on est dans le jardin là aussi. Vous aimez ça, ce travail du jardin, ou bien c'est votre épouse ?
Je crois que c'est tous les deux, on aime ça. Alors de mon jardin. De mon père, j'ai gardé le goût de jardiner. Alors ici, c'est petit, donc je dois avoir un espace qui doit faire 7 ou 8 mètres carrés, mais où je continue à faire quelques tomates et quelques haricots verts. Et sinon, oui, de garder un coin d'espace avec du vert. Alors, on est ici depuis 2 ans. Auparavant, on vivait à la campagne où on avait un très grand jardin avec beaucoup de légumes, avec beaucoup d'arbres. Donc ici c'est bien.
C'est très bien, très attrayant et très apaisant. Dans votre écriture, Pierre Rosin, on sent comme un désir de prendre de la distance avec les émotions. Vous voulez d'abord nous présenter des faits, mais avec une pointe d'ironie, une pointe de nostalgie par là, des questions dont les réponses auront le poids d'un bilan. Et tout cela plonge le lecteur dans un décor aussi bien visuel que psychologique. Quant au dessin, je le répète, il est très épuré, avec des lignes fluides qui mettent en mouvement et, vous l'avez dit vous-même, Pierre Rosin, on dirait presque une écriture, comme une tentative de calligraphie. On devine des personnages dont les contours permettent de donner une structure au dessin. Comment procédez-vous pour donner une unité entre texte et image? Alors, il n'y a peut-être pas de procédé, c'est peut-être tout intuitif. Mais enfin, est-ce qu'il y a des techniques que vous utilisez pour arriver à ce résultat?
J'allais dire bêtement non. Non, il n'y a pas de véritable technique. Ce sont des choses... Bon, ça fait partie de ce qu'il y a certainement dans ma tête. Et donc, ça vient un petit peu naturellement. Donc... spontanément, on arrive à faire un certain nombre de choses et finalement, on se ressemble assez dans quoi qu'on fasse. Par contre, l'inverse, avoir une technique, non, moi, j'en ai pas. Et si je me dis, je dois faire quelque chose de façon précise, ça devient très vite laborieux et ça va manquer de naturel.
Et puis, c'est plus créatif, du coup, parce que ça devient... Voilà, c'est le procédé.
J'ai besoin de cette ouverture créative, absolument. C'est ce qui m'intéresse aussi bien en peinture qu'au niveau de l'écriture.
Est-ce que vous accordez une valeur symbolique aux couleurs ?
A priori non, mais au fur et à mesure, je crois que je suis entre deux tendances, c'est-à-dire d'un côté l'épuration, donc il peut y avoir un tableau qui va être, vous voyez derrière vous, jaune et mauve. Donc pratiquement 2 couleurs, mais j'aime aussi beaucoup les impressionnistes. Donc dans un certain nombre de tableaux, vous allez avoir un amoncellement de couleurs qui viennent se juxtaposer les unes aux autres. J'aime bien ça aussi, ce mouvement-là.
Oui, avec des superpositions, des couches, des contrastes, comme des reflets. Alors, on a parlé de vos origines italiennes. Est-ce que vous êtes un petit peu penché sur l'histoire de l'art italien ? Est-ce que vous êtes... accroché ou attaché à ces racines-là, parce que bon, quand même, l'art italien Surtout la Renaissance, c'est quand même quelque chose d'énorme pour l'Europe.
Moi, j'ai eu beaucoup d'influence et bon, moi, je me considère comme français. Et donc, je me suis d'abord intéressé à l'art français avant tout. Et bon, j'allais dire, un des grands personnages qui m'ont influencé, bon, qui n'est pas vraiment français, c'est Picasso, mais qui fait partie je pense, de l'art français. Je me suis intéressé aussi à l'art italien, et en particulier à un artiste qui m'a beaucoup influencé dans la simplicité de son trait, c'est Fra Filippo Lippi. Je vous recommande alors ce que j'appelle moi la danse de Salomé, et qui doit être le festin de je sais plus.
Bah, si on en croit Flaubert, c'était la décapitation de Saint Jean-Baptiste.
Alors c'est possible, il faudrait que je regarde le tableau. C'est un banquet où on voit, je crois qu'il y a Bethsabée et Salomé danse.
Oui, c'est bien ça, l'histoire me revient. Il s'agit du festin qui est organisé par le roi Hérode. Ce roi Hérode avait épousé la femme de son frère décédé. Et Saint Jean-Baptiste avait dénoncé l'union incestueuse d'Hérodiade, la mère de Salomé, avec Hérode, son beau-frère. Pour se venger, Hérodiade convainc sa fille Salomé de lui apporter la tête de Saint Jean-Baptiste pour la venger. Salomé, à qui Hérode a demandé d'exprimer un vœu qui lui serait exaucé, exécute une danse pour en contrepartie de son spectacle obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste.
Maintenant, une autre question. Écriture, dessin, est-ce qu'il y a, quand vous commencez la journée, une forme de rituel pour vous mettre en train de dessiner ou d'écrire?
Non, moi j'ai pas de rituel. Il y a des moments qui sont un peu plus propices que d'autres. Peut-être le soir plutôt que le matin. Le matin, j'ai besoin d'un café. Les moments de tranquillité, mais ça peut être un voyage en train aussi. Des moments où de vacuité, je dirais. Où là, on peut avoir des idées ou des envies qui arrivent. Ou en tout cas, il me faut un peu de temps pour que je me déploie.
Dans votre bibliographie, on trouve ce titre un peu étonnant, que j'ai déjà cité en vous présentant, Poédiossi. Et je le rappelle, publié aux éditions du Petit Véhicule. Le Petit Véhicule, c'est une maison d'édition nantaise dirigée par Luc Vidal. Donc ce titre, Poédiossi, est-ce pure autodérision ou bien peur de vous prendre au sérieux? Alors, pourquoi ce titre et que contient ce livre?
Alors, c'est un livre de pure fantaisie qui vient se situer dans la trace de deux grands maîtres que j'ai eus, qui m'ont beaucoup influencé. Ce fut Georges Brassens, d'une part, qui aimait bien raconter des histoires parfois un peu drôles, et Boris Vian également.
Deux références tout à fait importantes quand même, en effet. Est-ce que vous voulez bien nous en lire des extraits?
En fin de semaine, la valise est pleine de slips et de chaussettes. Des t-shirts, quelques chemises, deux serviettes, un pyjama, fripé et sale. Le corps est poisseux de fatigue et de petites souillures accumulées au fil des jours. Ce qu'on vend à des gens qui n'en ont pas besoin, se compter pour ne pas faire d'histoire, les fausses promesses d'un air sincère, les désirs sans consistance, les questions sans réponse, un sourire, une poignée de main à des amis qui n'en sont pas et ne pas savoir comment faire autrement. D'avoir un peu menti, un peu trahi, avoir fait semblant, on se sent avili et sale. Le samedi, on jette son baluchon dans la machine à laver et si on pouvait, on s'y jetterait aussi. Se nettoyer à grandes eaux, 30 degrés, 1200 tours minute. Passer l'après-midi suspendu à un fil. Sentir la douceur du soleil. Le frais du vent et la bonne odeur de propre.
Il me semble que dans ce poème particulier, vous dévoilez quand même beaucoup de vous-même et votre regard sur la société n'est pas dupe du jeu de dupes qu'on voudrait justement nous faire jouer. Cette sensation de souillure que nous éprouvons, puisqu'il nous faut accepter toutes sortes de compromissions pour survivre, bien souvent, vous la dites vraiment très bien, simplement, mais avec éloquence. Encore plus en vous entendant les lire, bon, je vous ai lu, mais encore plus en vous entendant les lire, j'ai l'impression que le mot « dignité » pour vous a une signification vraiment forte, que ça vous tient, bon, pour être digne, il faut être droit, que c'est vraiment cette dignité-là qui constitue votre être. Est-ce que c'est une analyse cohérente que vous acceptez? Qu'est-ce que vous accordez comme valeur à cette dignité?
Je crois que c'est important d'avoir des valeurs, qu'on a besoin de repères, qu'on fasse pas n'importe quoi. C'est-à-dire que on le voit, on est poussé dans le travail, dans nos relations aux autres, à faire un certain nombre, parfois, de compromis. Alors, c'est vrai qu'il faut pouvoir vivre avec les autres, avec tout le monde, mais pas à n'importe quel prix. Ça, je pense pas que ce soit acceptable. Enfin, il faut pas.
Alors, en disant ça, est-ce que vous vous considérez comme un auteur engagé?
Engagé, c'est un grand mot. Moi, je suis pas un grand militant. Mais je suis sensible à certaines à la dignité. Vous avez parlé de dignité tout à l'heure, à certaines causes aussi. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir défendre.
J'ai retenu un extrait d'un texte intitulé Courbure. Il ne faudrait manger que ce qu'on aime, ce qu'on élève chez soi, ce qui pousse sur la terre. Si ce n'est pas possible, s'il faut passer par d'autres, pouvoir leur serrer la main, partager un repas, parler beaucoup, des phrases de la lune, du monde comme il va, du comment, et je vais le lire, un potager et ses légumes, l'été, petits pois, pommes de terre, courgettes, tomates, haricots verts, l'hiver, carottes, navets, choux, betteraves, poireaux, des plantes aromatiques, un verger, ses fruits, au fond du jardin, des poulets, des lapins, peut-être un cochon, une brebis et quelques agneaux. Connaître un paysan avec des vaches, pouvoir les caresser et même les traire. Il ne faudrait manger que ce qu'on tue, soi-même. Ne tuer que pour manger. Ne tuer que ce qu'on aime. Alors, il y a un peu du Jacques Prévert là-dedans, non?
Oui et non. Bon, d'une part, ça raconte un peu la vie qu'on avait avec mon père. C'est-à-dire mon père travaillait à la mine, mais il avait un grand jardin où il faisait pousser des haricots, des pommes de terre. Il avait un cochon par an. Il avait des poules et il avait des lapins. Et c'est vrai qu'on était confronté à cette idée de ces animaux, on les aimait bien. À un moment donné, il fallait les tuer, il fallait ensuite, je me souviens, lorsqu'on faisait le cochon, c'était tout un cérémonial, c'était vraiment un gros travail, et on se posait, c'est vrai, toujours cette question de la vie, de la mort et du respect qu'on avait pour les animaux. Mon père avait aussi un ami qui était paysan, qui était lui-même aussi ouvrier paysan, et ils travaillaient ensemble, c'était vraiment de grands copains, ils s'aidaient. Et c'est aussi, il faut que je l'avoue, j'ai piqué une phrase à Félix Leclerc. Sa chanson, c'était l'histoire de son frère ou l'histoire de mon frère, je me souviens plus du titre. En tout cas, qui se termine, nous autres, on tue ce qu'on aime.
Morceau de sagesse canadienne, alors.
C'est une sagesse canadienne rude.
Bien sûr, mais dans les fermes françaises, j'ai entendu ça aussi. Outre le fait que je vois avec cet extrait que je viens de lire, donc une proximité avec la poésie du regretté Marcel Migosi, ce texte m'a frappé, d'abord parce qu'on y ressent cet idéal de vie simple, au contact des éléments, irrigué toujours par cette dignité paysanne de travailler et de ne dépendre que de son travail, avec un rapport au vivant aimant, même si cela exige de tuer et de manger ce qu'on a aimé et nourri, ce dont on a pris soin. Dans ce petit extrait, vous dévoilez comme une éthique, une morale personnelle. Est-ce que les actualités qui viennent du monde, à l'échelle locale ou internationale, vous atteignent, Pierre Rosin? Et est-ce que vous connaissiez Marcel Migosi? Est-ce que vous voyez cette sorte de familiarité?
Bon, j'ai lu quelques-uns de ses poèmes, alors bon, moi ça me paraît pas évident, mais je n'ai pas de regard sur moi, donc je sais pas quel effet ma poésie peut produire.
Alors, Marcel Migosi, parents très très pauvres, qui ont quitté la Corse pour venir s'installer à Toulon, milieu ouvrier toulonnais, et qui ont encouragé leur fils à se sortir de ce milieu. Et ça parlait le patois corse chez les Migosi, à la maison. Et qui, donc il est devenu instituteur, puis professeur dans un collège. Mais un personnage très 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 attachant à Marcel. Alors vous avez dit que vous avez une écriture plutôt spontanée, pas de rituel. Et nous sommes à une époque où le vers libre est la pratique la plus fréquente. Il y a cependant des auteurs, pas les moindres, Bernard Noël, Dominique Kellen, Lou Lipo et bien d'autres, qui écrivent et qui aiment les contraintes, même si ces contraintes ne sont pas évidentes aux yeux du lecteur. Bon, donc ces contraintes peuvent donner une structure, une forme, de la cohérence, de la tenue à leur poème. Est-ce que, tout en étant spontané, vous sentez une forme de contrainte, vous contraignez à quelque chose, soit en écrivant, soit en peignant, en dessinant?
Aussi bien l'écriture que le dessin, pour moi, est un acte de liberté. Donc j'ai besoin de ne pas me sentir de contrainte, de ne pas avoir de contrainte. Donc vers libre. Parfois, j'aime bien avoir un thème. Donc mon esprit peut démarrer sur un thème, ça peut m'aider. Mais j'aime bien aussi la musicalité du poème, c'est-à-dire qu'on va retrouver, alors ce ne sont pas des rimes classiques avec des vers de la même longueur, mais des rimes quand même, c'est-à-dire qu'il faut que ça sonne, il faut que ce soit beau à l'oreille, qu'on sente l'harmonie. J'aime bien l'harmonie dans le dessin, mais j'aime aussi l'harmonie dans le poème. Pour illustrer un petit peu la musicalité que j'aime bien mettre dans mes poèmes, si mon esprit et ma raison donnent à mes pourquoi, une apparence tranquille et sincère, au fond de moi, je sais qu'il n'en est rien. Dans mon cerveau reptilien, rampe et s'entrelace d'inavouables désirs et des obsessions tenaces.
Il est de coutume, on parlait de musicalité, et on va revenir à la musique, il est de coutume que je demande à mon invité de choisir une musique ou une chanson à partager avec les auditeurs. Parce que c'est quelque chose qui a une valeur artistique, symbolique, affective, enfin, quelque chose qui vous a accompagné, qui vous a inspiré. Que choisiriez-vous et pourquoi, Pierre Rosin?
Je voudrais rendre hommage à Léo Ferré. Je pense que ça a été vraiment quelqu'un qui a su être populaire et qui a su porter la poésie, servir la poésie. Il a retravailler aussi des textes, je pense à Aragon, je pense à Rutebeuf. Donc il a fait quelque chose de ces textes qui étaient un peu figés dans la poésie, à en faire quelque chose de très vivant.
Eh bien, écoutons Pauvre Rutebeuf, mise en musique par Léo Ferré et chantée par Joan Baez.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu. Et tant d'aimer. Ils ont été trop clairs semés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis grand importe. Ils vantaient devant ma porte les importants. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche feuille, que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atteint, qui de partout fait la guerre, l'amour est mort. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairs semés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. C'est tes amis que vingt importe et qu'ils vantaient devant ma porte les importants. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a dû donner le roi de gloire, et pauvre rente. Et droit que le combise et vent, le vent me vient, le vent m'avance, l'amour est mort. Ne sais pas su le venir de ce qui m'avait à venir, m'est avenu.
Vous venez d'entendre un poème de Ruth Boeuf, mis en musique et adapté par Léo Ferré, et interprété par Joan Baez. Il s'agissait du choix musical de mon invité, le poète et plasticien Pierre Rosin. Est-ce que vous voulez bien nous lire encore un ou deux derniers poèmes ?
Nous habitions une mansarde impasse Guimard au 18 dans le Vieux Lyon. Tu travaillais comme serveuse à l'imprévu, un bistrot malfamé qui n'ouvrait que le soir. Pour gagner de quoi vivre, j'essayais de vendre chaque matin au marché, place du Lavoir, des dessins, des nus, des portraits, et des aquarelles qui représentaient l'enchevêtrement des rues. Nous vivions une bohème inconséquente que nous savions sans lendemain. Un jour d'hiver, par ennui, sur un éventail, j'ai peint ton nom, en lettres dorées, au contour maladroit. Je l'ai conservé malgré tout près de moi, dans un tiroir. Peut-être y avait-il entre nous, sans le savoir, un peu d'amour.
Merci pour ce peu d'amour ou ce beaucoup d'amour que vous nous laissez donc comme un legs à la fin de cette émission, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, je voulais aussi préciser que le livre « Paysages dissonants » dont vous avez lu des extraits Pierre Rosin paraîtra aux éditions Petra à la fin de l'année. Alors avant de rendre l'antenne, il me reste à vous remercier très chaleureusement, Pierre Rosin, pour votre accueil, vos réponses, votre authenticité. Je pense que les auditeurs l'auront entendu. C'était D'assonances en dissonance, une émission consacrée à la poésie contemporaine, que vous retrouvez chaque deuxième jeudi du mois à 20h sur Radio Agora Côte d'Azur. Je vous retrouve le mois prochain pour découvrir un nouvel invité et un nouvel aspect de la poésie contemporaine francophone. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.